Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans une heure en série, le seul et unique 55 minutes chrono de la radio française, consacré à l'actualité des séries. La mission de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur, s'ils consentent à l'accepter, vous recommander le meilleur des séries grâce à leur avis affûté, mordant et de toute bonne foi, prière de rayer la mention inutile. Une heure en série, saison 3, épisode 14. Ce soir, nous parlerons rencontre du troisième type et récit choral avec Invasion sur Apple TV, rêve américain en berne et enquête poisseuse dans American Rust sur Canal+, et enfin violence conjugale et investigation en sous-sol dans J'ai tué mon mari sur 13e rue.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Avec nous ce soir une petite nouvelle et je vous demande de l'accueillir, Nina Masson qui travaille sur France 24, vous êtes journaliste et vous animez une fois par mois une émission consacrée justement aux séries télé.
Eh bien, merci beaucoup à vous de m'accueillir, c'est bien ça.
Bienvenue. Absolument, d'où la raison de votre présence ici, Ava Kahn de Frenchmania, bien évidemment.
Salut tout le monde.
Salut Ava. Et Benoît Lagan, évidemment, sans lequel cette émission ne serait rien, que l'on peut entendre dans le 5-7 de Mathilde Munoz.
C'est ça.
Et que l'on peut voir, parce que le plaisir des yeux, ça compte aussi, dans Télématin, le jeudi et le samedi.
C'est ça. Bonsoir à tous et à toutes.
J'ai tout bon, il y a du courrier.
Oui.
Et oui, il y a pas mal de courriers.
On m'engueule encore?
Non, bizarrement pas. On vous fait presque une déclaration. Mais on va commencer par le courrier de Diane. Bonsoir les amis. Allez, cela fait presque 2 ans que vous vous invitez dans mon poste radio chaque samedi. Vous êtes donc mes amis. Une sage auditrice mentionnait récemment le peu de séries d'animation au programme. Bien chargé, certes, de votre émission. Eh bien, remerciez-moi. Je vais vous donner le, en majuscule, sujet qui va vous y faire rentrer par la grande porte. Foncez découvrir sur Netflix la merveilleuse série d'animation italienne à découper suivant les pointillés. Quelqu'un l'a vu?
Non.
6 épisodes, 15 minutes, vous ne pouvez pas m'accuser d'avoir gâché l'entièreté de votre soirée. C'est une série de petits sketchs pour adultes ou grands ados, relatant avec humour et justesse les névroses qui touchent les trentenaires, quarantenaires, bon, ça ne me concerne plus, de notre génération. Le tout nous renvoie à chaque fois de façon très pertinente au fil rouge d'une histoire de fond, l'escapade en train de nos trois protagonistes. Le créateur manie le rythme et une narration de grande qualité avec des répliques hilarantes et des réflexions très sages, une vague de nostalgie sur l'insouciance de la jeunesse, quand notre futur ne prend pas la direction que l'on souhaitait et ne suit donc pas forcément les pointillés. Merci beaucoup Diane de cet excellent conseil. Alors je ne sais pas qui a signé, c'est Mircap 1950, on peut estimer que c'est un pseudo, n'est-ce pas? Après avoir écouté votre émission, j'ai profité d'un week-end froid et pluvieux pour regarder l'excellente série d'Arte, Nana et ses filles. Merci d'inciter vos auditeurs à conseiller de bons programmes sur les chaînes gratuites, ou en tout cas non payantes. Et puis Lucas. Bonjour monsieur Lerper, alors c'est pour moi. Ça va pas durer, rassurez-vous, parce que j'ai un titre de chanson dans un quart d'heure, ça va être une catastrophe. Ce message simplement pour vous encourager à assumer votre accent lorsque vous donnez des titres en anglais. Globalement, vous vous débrouillez plutôt bien.
Il est chaud
là, non, il est chaud. Et je trouve dommage d'éprouver systématiquement le besoin de vous excuser de votre prononciation. Encore une fois, attendez, ça va pas durer. Je trouve que cela participe à perpétuer le complexe qu'ont beaucoup de francophones pour parler en anglais. Si vous avez honte de votre accent, je devrais avoir honte du mien qui est bien pire. Soyons positifs, ce qui compte, c'est de se faire comprendre. Délions les langues, on y gagnera tous en plaisir. J'aime beaucoup cette maxime.
Hein,
je pense que voilà. Petit message quand même pour notre cher Benoît. Salutations spéciales au très queer Benoît Lagarde. Icône LGBTQI+, malgré lui. Alors, non Lucas, c'est pas malgré lui. Une jeune japonaise amoureuse placardisée d'une astronaute disparue dans l'espace après la destruction de sa navette. Des collégiens anglais livrés à eux-mêmes après un accident de car, un soldat de l'armée américaine unique survivant d'une attaque dans le désert afghan et une famille en pleine perdition tente de fuir la menace de ce qui pourrait être une attaque extraterrestre. Invasion, une série en 10 épisodes disponible sur Apple TV, de la pure SF à la Denis Villeneuve, c'est-à-dire minimisant ses effets pour se concentrer avant tout sur les drames humains face à l'apocalypse. Vous l'aurez compris, Invasion est une adaptation inavouée mais criante de similarité de La Guerre des Mondes de H.G. Wells.
Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, rien ni personne n'aurait jamais pu me préparer à dire. Quand beaucoup d'entre vous le savent désormais, nous sommes victimes d'incidents inexplicables et à première vue sans aucun lien. Cela va de simples coupures de courant à la destruction d'infrastructures et de maisons. pensons à présent que ces incidents ne sont pas indépendants, mais qu'ils sont en réalité tous liés. Quelque chose est arrivé sur notre Terre.
Fort à 12 heures !
Et cette chose ne vient pas de notre Terre.
Invasion, une série produite par Simon Kinberg, scénariste et producteur sur la saga X-Men, et producteur des récents Agatha Christie mis en scène par Kenneth Branagh, avec Golshifteh Farahani, Samir Anderson, Billy Barat et Kutsuna Shiori. Du côté de la presse, Le Figaro apprécie le fait que cette série, je les cite, mise tout sur ces excellents personnages, chacun d'entre eux recélant une humanité poignante. Pour Télérama, c'est l'exact contraire. La série charge la barque intersidérale avec des héros bien fades qu'il n'est pas urgent d'envahir. Cher Benoît,
eh bien moi,
Figaro ou Télérama?
Là, je suis plutôt Figaro.
C'est une première.
Non, c'est pas une première. Ça arrive des fois que je sois d'accord avec les avis séries du Figaro, Xavier.
Eh bien développé, cher Benoît.
Série, non, précisons-le.
Oui, oui. Les avis séries. J'aime beaucoup Invasion. C'est vraiment pour moi l'agréable surprise parce qu'au départ, rien de neuf a priori quand on voit le pitch et la façon dont vous l'avez raconté. Effectivement, on va avoir l'éternelle invasion extraterrestre sur la Terre. Sauf que ce que vous avez rappelé et ce que dit Le Figaro aussi, c'est que on est centré sur les personnages et on prend du temps à être d'abord avec eux face à l'adversité sans savoir réellement ce qui se passe. Nous, on sait qu'on regarde une série sur des aliens, mais eux savent pas. Et on est vraiment, la série prend le temps, mais elle est jamais lente parce que on est vraiment avec eux et on vit cette frayeur avec eux. Si on ajoute à ça le fait que l'alien, on le voit très très tard dans la série, il faut attendre le 5e, voire le 6e épisode pour le voir un petit peu, que quand on le voit, il ressemble...
Comme dans le roman La Guerre des Mondes,
oui, hein,
on le voit pratiquement pas.
Bien sûr, mais là, il ressemble à une sorte de virus. Du coup, ça renvoie énormément de choses sur ce que c'est que des humanités confrontées à une adversité qui est là un alien, mais qui pourrait être complètement autre chose. Et ce que je trouve extrêmement intelligent dans la série, c'est que par ailleurs, tous ces personnages sont en situation d'être celui qu'on peut montrer du doigt comme l'envahisseur de l'humanité à une autre humanité. Et que donc tout ça vient être remis à plat. Sans discours, parce qu'on est vraiment dans l'action, mais dans cette action presque réaliste, parce que s'il doit marcher pendant 24 heures, ça va durer un épisode entier. Et moi, ça, je trouve ça assez rare dans ce genre de série où on a tendance à se précipiter très vite. Alors du coup, on arrive au 9e épisode. Forcément, ça avance et on sait de plus en plus de choses. Est-ce que la série va réussir à tenir ce pari aussi longtemps qu'elle durera d'être dans cette humanité? Moi, je l'espère. Il y avait cette musique de Max Richter dans le générique qui me faisait penser à Leftovers. Ce n'est pas Leftovers, mais on en est quand même pas loin.
Nina Masson.
Alors moi, j'ai quand même trop eu cette sensation de déjà-vu en regardant cette série. Alors ça vient probablement du fait, Xavier l'a évoqué, que les deux co-créateurs se sont inspirés du roman culte La Guerre des Mondes, déjà adapté sur petit écran par Canal+, en début d'année. Et j'ai eu l'impression de voir la version américaine, hyper léchée, hyper produite, hyper castée aussi de ce classique de science-fiction. Alors il y a malgré tout, effectivement, comme Benoît l'évoquait, ce parti pris intéressant de mettre au premier plan des histoires d'amour humaine, trop humaine, justement au premier plan de cette série, à tel point que l'invasion extraterrestre passe, elle, au second plan. Or, c'est quand même elle qui est censée nous tenir en haleine, surtout pour une série qui s'appelle Invasion. Donc, il faut attendre. Donc, je crois que c'est le 6e épisode pour que l'ennemi prenne un visage clair. C'est beaucoup trop tard, je trouve. Mais c'est l'effet dent de la mer voulu par les scénaristes. Hein. Moins on les voit, plus ils font peur. Le seul intérêt que j'ai vu du point de vue purement de l'écriture sérielle, c'est que les personnages vont projeter leur propre peur sur ce qui leur arrive. En Afghanistan, par exemple, ça va être une attaque terroriste. Et il y a cette séquence, peut-être la seule qui m'a scotché dans cette série, celle de l'aéroport de Kaboul.
Et oui.
Voir le dernier soldat américain accroché dans la série au dernier avion du pays pour fuir une attaque extraterrestre quand, 5 mois auparavant, on découvrait ces images-là, en même temps que les images de milliers d'Afghans coincés à l'aéroport de Kaboul avec tout le lot de drames qu'on peut imaginer. Je trouve que ça paraît forcément rétréci, minuscule dans la série. En fait, là, la réalité a totalement dépassé la fiction et pour une série qui relate une invasion extraterrestre, fallait le faire. Tragique effet miroir, donc. Voilà pour conclure. conclure, je dirais que sans nul doute, la fin du monde a de l'avenir dans la fiction. Dans cette série, un peu moins.
Jolie, ouais. Avakaine.
Et ben, je suis pas aussi enthousiaste que Benoît et je partage aussi des réserves comme Nina. En fait, il y a du bon et du moins bon. Hein. J'ai beaucoup aimé le premier épisode parce qu'il introduit justement les protagonistes qui habitent des coins différents du monde. Hein. On l'a pas dit, mais ça se passe aux États-Unis, au Japon, au Maroc, au Royaume-Uni.
Mais si, je l'ai dit.
Ah ouais. Ah ben, c'est ouais, moi qui étais. Bah voilà, j'étais absente moi-même. J'étais sur un coin de la planète. Donc voilà. Et puis il y a évidemment une présentation, une déclinaison de situations de crise. Donc on a des disparitions inquiétantes, des pannes d'électricité conséquentes, des satellites qui ne transmettent plus les messages qu'ils devraient transmettre, la Terre tremble, le vent se lève, c'est ce que tu disais Benoît. En fait, nous, c'est effectivement, on est en terrain connu, quoi. C'est vraiment une imagerie qui nous est très familière. On pense à la guerre des mondes, mais on pense aussi à Signe et à Phénomène de Night Shyamalan. Mais voilà, eux, les personnages, c'est ce que tu disais, pas une seconde, ils pensent à une attaque extraterrestre. Et c'est la première piste envisagée, c'est d'abord, comme tu le disais Nina, la menace terroriste, quoi. C'est la piste qui est remontée, qui est la plus rationnelle, la plus élémentaire. Moi, le truc, c'est que passé le premier épisode, que je trouve plutôt convaincant, les suivants, notamment le deuxième, le troisième et le quatrième, je les trouve assez inégaux. Ils patinent assez vite, on perd en efficacité, mais aussi en affect. Et c'est là mon plus gros bémol, en fait, et là où je rejoins un peu Télérama dont on parlait. C'est une série de science-fiction qui prend des allures de drama humain, en fait, qui veut privilégier la psychologie des personnages à l'action. Le problème, c'est que les personnages sont pas très bien écrits, ils m'ont semblé un petit peu caricaturaux, et à travers eux, eh ben, on voit trop les thèmes de société et les questions de mœurs clignoter, par exemple le harcèlement scolaire à travers le personnage de Casper, les chagrins de la vie conjugale à travers le personnage que joue Gueulchifte Farahani, l'homosexualité à travers le personnage de Mitsuki, le patriotisme à travers le personnage du soldat noir américain, donc voilà. Pour résumer, trop contemplatif, trop de crises existentielles, pas assez de monstres venus d'ailleurs, c'est bien dommage.
Mais c'est beau. Une série de beau, plus sur l'invasion extraterrestre, mais a priori pas une série de trop. Donc on vous recommande quand même, avec prudence, Invasion sur Apple TV.
I'm
Subterranean Homesick Alien. Je vous avais dit que ça ne durerait pas l'état de grâce avec l'accent anglais par le groupe Radiohead. Créée en 1965 par Bob Dylan, cette chanson est la supplique d'un terrien adressé aux extraterrestres pour que ces derniers viennent le récupérer et l'emmener vers un monde meilleur, sans Donald Trump par exemple ou Éric Zemmour. Pour cette reprise, Radiohead et son chanteur Thom Yorke ont cherché à réinventer ce standard de la folk en lui conférant des sonorités intersidérales. La mélodie semble encore plus embrasser le vide immense de l'espace et se fait planante, contemplative et désespérée.
France Inter. Une heure en série.
Petit conseil littéraire en écho à la série Invasion dont nous venons de parler. Et je vous recommande de découvrir les aventures du pilote Pirx de Stanislas Lem aux éditions Actes Sud. C'est un classique de la littérature de science-fiction dont on avait presque oublié l'existence. Alors si Stanislas Lem, son auteur polonais, reste connu entre autres pour avoir signé en 1961 le roman Solaris, devenu sous la caméra d'Andrei Tarkovski un chef-d'œuvre du cinéma d'anticipation, on connaît moins son soldat Pirx et les chroniques dont il fut le héros dans les années 60, époque où ses aventures sérielles furent éditées. Des nouvelles en forme d'épisodes distincts qui mettent en vedette ce pilote d'un vaisseau dont les vols spatiaux hors de notre système solaire se soldent régulièrement par un cuisant échec. Pirx est un personnage lunaire, pas toujours taillé pour les missions qui lui sont confiées, pas assez doué, trop modeste ou trop rêveur pour endosser le costume encombrant du valeureux héros. Une SF humaniste et initiatique, philosophique et poétique, d'une extrême précision scientifique dans le style qui croise aussi les planètes de l'humour et de la mélancolie. Une réflexion autour de notre condition terrestre vue à travers un anti-héros attachant et faillible. Réunis là pour la toute première fois dans un même recueil, ces aventures nous replongent dans les années 60, en plein début de la guerre des étoiles, et témoignent du génie visionnaire de leur auteur qui imagine dans ses pages rocambolesques un futur spatial, certes un rien utopique, mais terriblement crédible à redécouvrir d'urgence par tous les amateurs du genre, les aventures du pilote Pirx de Stanislas Lem aux éditions Actes Sud. Bienvenue à Buell, petite bourgade de Pennsylvanie, une ville qui vivait auparavant de la sidérurgie, industrie autrefois flamboyante, mais désormais en berne, un décor sombre et sans espoir, à l'horizon bouché, toile de fond métaphorique de ce récit qui mêle polar sombre et portrait sociologique d'une Amérique gangrénée par les nombreuses crises sociales. American Rush, une série en 9 épisodes disponible sur Canal+, soit la fin du rêve américain vu à travers la figure d'un shérif désœuvré et corrompu qui enquête au début de la série sur le meurtre d'un ex-collègue, un crime dont toutes les preuves, même si notre héros s'échine à les faire disparaître, qui convergent vers le fils de sa compagne. L'évocation d'une Amérique dépressive où les classes ouvrières et moyennes ont été sacrifiées sur l'autel de la mondialisation. Pour vivre ou plutôt pour survivre, les habitants n'ont pour seule issue que fuir la ville pour une grande métropole, taire leurs amours interdites ou essayer d'oublier leur misère et leur solitude grâce à l'addiction médicamenteuse.
Man can have two reasons for doing the right thing. You'd rather I left you out of this going forward. I get it. No hard feelings. But I got a right to know.
Hand of God coming from the sky.
Just do your job and I'll watch out for you.
This case is poisoning my town.
American Rust, adapté du remarquable roman éponyme de Philippe Meyer et dont une toute nouvelle traduction vient d'être rééditée chez Albin Michel. Une série créée par Dan Futterman qui fut pour mémoire le scénariste des remarquables Capote et Foxcatcher au cinéma ainsi que de Looming Tower pour la télévision. Côté générique, ben, c'est un sans faute, disons les choses telles qu'elles sont, avec entre autres l'impressionnant Jeff Daniels dans le rôle du shérif, Maura Tierney, inoubliable vedette de The Affair, ainsi que David Alvarez, que vous pourrez découvrir dans quelques jours dans le West Side Story de Spielberg, où il interprète Bernardo. Côté de la presse, alors c'est très bizarre, il y a une rupture géographique du côté des Anglo-Saxons, ils détestent. J'ai du mal à en trouver une positive et je ne l'ai pas trouvée d'ailleurs pour le Time. American Rust ne fait que reproduire les clichés sinistres qui abondent dans les prestigieux portraits de l'Amérique rurale. Là, va te relever après ça. Et The Hollywood Reporter se demande ce que American Rust pourrait bien avoir à dire sur un endroit que la série semble à peine comprendre. Bon, ben heureusement, Sortons les standards français, la presse est hexagonale et beaucoup plus clémente. Télérama considère que la série, je les cite, touche par l'humanité de ses héros en lutte. Et Le Parisien apprécie une série qui s'avère aussi poignante que pleine de suspense. So, dear Hava.
Eh bien, écoutez, on a là un plutôt bon polar. Moi, j'ai l'impression bien troussé, bien mis en scène. La photographie restitue parfaitement l'austérité ambiante. Hein. Tout est jaunâtre, tout est verdâtre, tout est déliquescent. Les personnages ont le visage cerné, bouffi par l'alcool, les mains endolories par le travail. Et évidemment, quand on voit la gueule du patelin que vous décriviez très bien, Xavier, on comprend qu'ils aient le cafard. C'est une série qui nous montre assez justement, je trouve, la face obscure voilà, de l'Amérique provinciale, la profonde dépression, vous le disiez, dans laquelle elle est plongée, ses esprits rouillés et verrouillée, le gouffre dont elle n'arrive pas non plus à sortir, et personne ne vient d'ailleurs l'aider à s'en sortir. Hein. C'est aussi une des leçons qu'on retient de cette série. Alors tout commence en effet avec l'assassinat d'un ex-policier devenu dealer, et ça nous plonge tout de suite dans le bain, parce qu'on comprend qu'on va côtoyer pendant 9 épisodes des personnages fracassés, qui vont franchir la ligne jaune, souvent pour de la poudre blanche, justement.
Joli.
Je trouve... Ouais, merci. Je l'avais travaillé un petit peu, j'avoue qu'elle mérite. Je trouve Jeff Daniels absolument formidable dans la peau du shérif déboussolé. Il est sobre, il est juste, il est extrêmement touchant. Il joue un personnage naturellement protecteur qui a la foi, qui a foi en la justice, mais qui aime aussi la mère d'un petit voyou. Et c'est là que tout va se compliquer pour lui. Donc l'intime et le professionnel vont se retrouver pris dans la même toile. C'est une série extrêmement sombre, extrêmement pessimiste, où la plupart des personnages rêvent quand même d'une vie meilleure ailleurs, mais comme le montre la triste trajectoire du personnage d'Isaac, joué par
David Alvarez.
Voilà. Il n'y a pas de vie meilleure ailleurs. Voilà, le rêve américain est un lointain mirage pour une partie de la société rurale, telle que la dépeint cette série, moins favorisée, cette Amérique white trash, comme on dit. Voilà.
Benoît Lagan, à propos d'American Rust.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Ava, pas du tout avec la presse américaine. D'ailleurs, moi, ce que je me dis, c'est que si Donald Trump a fait quelque chose de bien en Amérique, c'est qu'il a obligé Hollywood à aller revoir un petit peu cette campagne-là, que les séries avaient globalement délaissée. Ou alors qu'elle nous avait montré uniquement à travers des tueurs en série, des monstres à Stephen King, grosso modo, hein, pour aller très vite.
Pas faux.
Et en fait, moi, avec Mare of Easttown, dont on a parlé ici, je trouve que ça fait deux séries qui nous montrent avec précision ce que c'est cette Amérique. Moi, je ne vois pas, elle la regarde pas de haut, cette Amérique. Parce que oui, ils sont malheureux, mais ils combattent, ils sont là et ils aiment malgré tout leur ville. Et moi, ça, je trouve que c'est assez rarement montré. Parce que il faudrait pas penser que cette série, c'est que effectivement des losers, comme les séries peuvent les montrer souvent. Non, là c'est des gens qui ont envie de se battre, et justement le fameux gamin qui est pris dans cette enquête, on veut l'aider parce qu'on sent qu'il a un avenir possible. Donc c'est pour ça qu'en fait on veut le défendre. Les comédiens, Jeff Daniels, exceptionnel, Maura Tierney depuis Urgence, de toute façon, ouais, on voit vrai. Que rôle après rôle, elle est extraordinaire. La mécanique policière, au fond, s'efface exactement comme dans Mare of Easttown, je trouve, pour laisser du temps au combat syndical, pour laisser du temps à ces moments tendres entre un homme, une femme qui essaie de trouver l'amour dans ce monde rouillé, effectivement, comme tu le disais bien, Ava, et que le titre présente. Non, moi, je trouve que c'est vraiment une très, très grande série. Et quand on voit qu'à la fin, ah ben, il y aura peut-être une saison 2. Moi, je dis oui, 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 j'ai encore envie de voir cette Amérique-là.
J'ai juste oublié de rappeler que le roman est sorti en 2009. Donc, il a quand même déjà quelques années. Et il y avait déjà effectivement une lucidité chez Philippe Miller. C'était avant l'élection de Donald Trump. Oui. Il y avait déjà un constat sociologique extrêmement fort que la série restitue très bien. Nina, le mot de la fin.
Alors, pour moi, cette série, c'est un modèle de l'art du crescendo patient, c'est-à-dire d'un récit qui monte en puissance d'épisode en épisode. On est dans tous aux 24 heures chrono. Et il faut effectivement...
C'est bien que vous l'ayez remarqué, je suis rassurée.
Voilà. Et bien, il faut s'offrir ce luxe d'être patient pour profiter pleinement de l'intrigue. Mais je trouve que c'est évidemment récompensé. La mécanique est précise, implacable. Cette petite ville de Bulle, je trouve qu'elle incarne parfaitement les limites du rêve américain. C'est même un personnage à part entière de la série. Un personnage gris, usé, pesant, qui recouvre comme un socle, comme ça, ses habitants. C'est très bien photographié, d'ailleurs, Ava l'a dit. Et cette absence d'horizon se lit dans les yeux des personnages tout de suite avec le personnage incarné magistralement par Jeff Daniels qui crève l'écran dans ce jeu tout en retenue aussi, qui, au cœur de la torpeur de Bulle, va prendre de très très grandes décisions. Alors, sans dévoiler lesquelles, il est en fait toujours hors du système, tout en restant à chaque instant gardien de ce système. Elle est là, la grande contradiction, la grande désillusion aussi. Alors oui, on peut reprocher à cette série son manque d'urgence, son manque de coup d'éclat, mais il y a quand même quelque chose de plus grand, je trouve, dans ce rythme qui est délibérément lent. Pas besoin de se dépêcher, c'est vrai, quand on n'a nulle part où aller. Pour moi, c'est une leçon de patience face à la vie aussi, cette série, de leçons toujours bienvenues, donc je recommande bien sûr.
Ben je crois que c'est un coup de cœur unanime qui contredit la presse anglo-saxonne. Mais on est comme ça, nous, dans une heure, on n'a peur de rien.
Les Français ont raison, de toute façon.
American Rest sur Canal Plus. Certainty par Big Sif, la quintessence du folk qui sent l'ouest sauvage, les cow-boys esselés et le feu de bois qui crépite. Une mémoire déchue portée par la mélancolie des accords et des voix du groupe qui semble poursuivre un rêve évaporé, un titre nostalgique, composé et inspiré par un jour de pluie lorsque celle-ci tombait sur leur guitare. Un titre qui sent le cinémascope à la fois dépouillé et intemporel.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir de Benoît Lagan. Et dans l'effet miroir ce soir, c'est l'actualité politique à droite toute qui vous a inspiré, cher Benoît.
Oui, on dit souvent qu'il faut bien observer ce qui se passe en Amérique pour voir ce qu'il va advenir en France quelques mois ou années plus tard. Regardez, ils ont eu Dallas en 78, nous on a eu Château-Vallon 7 ans plus tard en 85. Alors j'espère que ce que je vais vous raconter ce soir ne va pas arriver. Et pourtant c'est arrivé aux États-Unis et cela a même été raconté dans une excellente série, The Loudest Voice, toujours disponible sur MyCanal, dont nous avions parlé dans une heure en série. une mini-série qui relate la trajectoire de Roger Ailes, celui qui a fait de Fox News, sous couvert d'une chaîne d'information continue, une chaîne d'opinion anti-Obama. Quand on voit aujourd'hui chez nous la montée d'un ex-polémiste de la télévision et sa déclaration de candidature à la présidentielle cette semaine, quand on voit que les idées qu'il a défendues avec acharnement, émission après émission sur certaines chaînes d'info et ailleurs d'ailleurs, bref, quand on voit qu'Éric Zemmour est candidat à la présidentielle et que ses idées sont allègrement reprises par des candidats à la primaire des Républicains, on se dit qu'au fond, ce qui s'est passé aux États-Unis avec Fox News et Donald Trump pourrait être en train de se jouer chez nous.
Mais alors, que raconte et que montre surtout la série The Loudest Voice ?
Eh bien, comment Roger Ailes, avant de faire monter Donald Trump, pousse sur son antenne, surtout, les idées que portera le encore futur candidat. Porter la voix de ses idées pour des raisons non pas fondées sur le plan éditorial, mais d'abord par haine à l'encontre des médias progressistes, du Parti démocrate et en particulier du président Obama et puis de la candidate qui se dessine alors, Hillary Clinton. Bref, ceux et celles qui représentent pour lui la fin d'une Amérique masculine et non blanche. Dans la série, c'est Russell Crowe, méconnaissant qui joue Roger Ailes, écoutez dans l'épisode 4 ce qu'il dit à ses responsables de rédaction.
Cette Maison Blanche déteste l'Amérique. Elle déteste le capitalisme et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec sa façon de penser. On va pas les laisser faire, on va pas se plier au désir de ces connards. On va les combattre. À chaque fois qu'ils lanceront un sujet, on les contrera. Ils disent progressistes, on dira socialistes. À couverture sociale, on répondra fraude sociale. Service de santé, on répondra commission de vie ou de mort. Imposons notre message. Socialistes, musulmans, étrangers, répétons toutes ces choses, encore et encore, répétons-les. Nom de Dieu, on n'a même pas la moindre preuve qu'Obama est bien citoyen américain.
Tu l'as soufflé à Trump, il vient de remettre en cause les origines d'Obama à la télé.
Oui, on a peut-être dîné ensemble. Justement, ce serait bien de l'inviter dans l'émission Fox and Friends, il est bon pour l'audience.
Il parle de faire à nouveau campagne pour les présidentielles.
Parfait, raison de plus pour l'inviter.
On voit donc bien dans cette série comment c'est d'abord des idées que le média en question et son patron veulent faire avancer à des fins certes politiques, mais c'est là le machiavélisme de la situation, surtout pour des raisons économiques. Plus on fait de l'audience, mieux on se porte, plus on remplit les caisses de l'entreprise et donc de ses actionnaires. Écoutez là encore un extrait de The Loudest Voice, une scène toujours en salle de rédaction. Nous sommes dans l'épisode 6.
Comme il ne s'est toujours pas déclaré, on peut
il
pas...
Il va vraiment être candidat ?
Ce que les habitants des deux côtes n'ont pas l'air de comprendre... C'est qu'entre l'Hudson River et la Sierra Madre, les gens du monde réel sont fous de Donald Trump. Ils l'adorent. Et quand il se présentera, il va faire sensation. Et nos audiences, vont exploser. C'est tout ce qui compte.
Plus que l'avenir du pays ?
Moi, je ne dirige pas le pays. Je dirige cette bonne vieille chaîne d'infos.
Tout dit. La série aborde aussi les affaires de violence sexuelle dans le monde des médias, car Roger Ailes était aussi un prédateur sexuel. La série nous offre un autre effet miroir intéressant en ce moment. La série est visible sur la plateforme MyCanal, je vous la recommande fortement. La preuve qu'il reste au sein de Canal+, à de bons professionnels. La programmation riche et toujours pertinente en matière de séries à effet miroir le démontre, car il est bon parfois de le rappeler. Comme la Fox, la chaîne des Simpsons, n'est pas Fox News, Canal+, ce n'est pas CNews.
Merci beaucoup, cher Benoît, pour cet effet miroir qui fait un rien froid dans le dos. Pour en réécouter, j'ai oublié de vous dire votre chronique, bien sûr, en podcast et sur le site de l'émission. Vous êtes bien dans une heure en série, en direct, sur France Inter, avec ce soir Ava Cahen, Benoît Lagane et une petite nouvelle dont on se félicite déjà de la présence, Nina Masson. Un soir épuisée par une énième dispute et des années d'insultes et de coups, Anna se rebelle enfin et pousse son mari du haut d'un pont. Ça se fait pas normalement, hein, quand même. Elle choisit d'assumer son acte et d'attendre sa mise en examen dans les couloirs du palais de justice. C'est là qu'elle découvre que son bourreau, avocat réputé, a survécu à sa chute et que leur fils, parfait objet de chantage, est désormais en danger. Pour le sauver, Anna doit s'enfuir, mais elle est poursuivie par une policière tenace. J'ai tué mon mari, au titre très explicite, hein, une série française en 6 épisodes, disponible sur 13e rue. C'est depuis les sous-sols du palais où elle a trouvé refuge que notre victime va tenter de faire toute la lumière sur cette sombre affaire et découvrir quelles étaient les activités peu reluisantes. Alors je ne vous révèle pas grand-chose en vous disant cela. De son époux. Pour cela, elle va s'adjoindre l'aide inattendue d'un bel ouvrier, bien sexy en Marcel Seyant, hein, qui, par rancunier, va lui venir en aide après avoir été retenu prisonnier et ligoté par notre héroïne. Comme quoi, et ce n'est pas Ava qui va me contredire, le bondage, ça resserre les liens.
Police secours, j'écoute.
Oui, j'aimerais signaler des hurlements.
Des hurlements. Qui hurle, monsieur ?
Et leur enfant, je crois. Ils se disputaient, puis ils sont partis.
De qui parlez-vous, monsieur ?
Anna, qu'est-ce qu'il y a? Où est Manu?
On n'a pas choisi le bon job, on dirait.
Mais tu peux retourner dans la police, tu vois pas.
Venez, courez! Bonsoir, madame.
Bonsoir.
On nous a signalé des cris devant chez vous. Est-ce que tout va bien?
Il est là, votre mari? Manuel?
Oui, mais il dort. Enfin, il ronfle. Si vous voulez écouter.
Bon, voilà. Oui. Maître Vira ronfle. C'est ça que je voulais savoir, Calais. Allez, on y va. On va vous laisser tranquille, madame.
Madame Vira, il est où, votre mari?
Je suis un monstre. J'ai tué mon mari.
J'ai tué mon mari, oui, ça elle le dit quand même très clairement. Une série écrite par Sophie Dabe, Lucie Fréjaville, Justine Kim Gauthier et Rémi Silke Binisti, qui en signe également la mise en scène avec dans les rôles principaux Erika Sainte, Tiffen Davio et Antoine Gouy. Nina, cette série policière française sur 13e rue, vous a-t-elle séduite?
Alors, le premier épisode, mais uniquement le premier épisode avec ce personnage flamboyant incarné par Erika Sainte, très fragile et très intense à la fois, mais pour moi la promesse n'est absolument pas tenue. Toutes les possibilités émotionnelles que contient ce personnage ne sont pas déroulées, ou en tout cas mal déroulées. Pourtant, il y a un bon parti pris, c'est que c'est une série mentale, où la mise en scène est totalement dédiée au décor psychique de cette femme. On est plongé dans son angoisse, dans sa confusion des choses, à tel point qu'on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux dans la suite des événements, mais c'est mal maîtrisé. Le point, moi, qui m'a intéressée et qui, malheureusement, là encore, n'est pas creusé, c'est cette idée de double emprise, donc l'emprise du mari violent, mais aussi l'emprise d'une sorte de double maléfique avec lequel vit Anna, le personnage principal. Ça se matérialise à l'écran dès le premier épisode avec ses scènes de miroir, mais ensuite, ça disparaît, ce n'est plus du tout traité. Il faut attendre presque la fin de la série et une scène très puissante où elle est en prise directe avec son double pour retrouver cette emprise-là. C'est une très belle scène, mais c'est la seule, malheureusement, je trouve. Moi, ça me fait penser à Homeland, cette série d'espionnage avec une héroïne bipolaire qui fait face à la fois au terrorisme et à ses propres démons. Et justement, dans Homeland, ce point d'équilibre, cet espace de doute entre réalité et perception troublée du réel est parfaitement tenu, alors que dans J'ai tué mon mari, ça tourne à vide. Le trouble est presque réduit à un élément de décor. Une héroïne troublée donc, mais pour une série loin d'être troublante, malheureusement.
Bien joué. Moi, j'aimais bien l'idée de ce huis clos à l'intérieur du palais de justice, les réfugiés au sous-sol. Il y a deux, trois idées de dispositifs, en tout cas de décor. Et comme vous l'avez bien dit, effectivement, très labyrinthique et très à l'image du mental de son héroïne. Mais fallait-il en faire quelque chose encore? Ava.
Oui, moi, je n'aurais pas ta délicatesse, effectivement, Nina. Voilà, c'est terrible. Pour moi, c'est un gros nanar. Et je suis embarrassée parce que vraiment je trouve que la série tombe dans tous les panneaux, tous les clichés, à commencer par cette scène d'ouverture dont on a parlé et qu'on a vu 15 000 fois, la femme seule au bord de la route qui regarde vers le vide, qui est complètement désorientée, et puis la pluie tombe de rue, sinon ça serait pas drôle évidemment. Donc voilà, la série a pas beaucoup d'imagination, elle est captive je trouve d'une mécanique de récit hyper binaire, très scolaire, qui alterne entre scènes psychologiques ou scènes de révélation et puis scènes d'action, mais pas super bien chorégraphiées ni super bien filmées non plus en réalité. Les personnages ont un profil très classique aussi, hein, voilà, la flic aux manières de mec, le second couteau aussi zélé qu'empoté, la femme tourmentée donc qu'on croit coupable, le mari violent qu'on croit mort. Bref, la série joue un peu naïvement avec les reflets et les faux-semblants, je trouve, et un peu maladroitement avec la notion de culpabilité et de justice. Et puis, je trouve le jeu des acteurs, malheureusement, très peu crédible. Il est très outré. Et on joue, j'ai eu l'impression de ça, comme dans un soap AB production, quoi. Et c'est dommage parce que ça fait perdre encore plus de crédibilité à l'histoire et au personnage. Je suis un petit peu dur, mais en même temps, voilà, je le dis tel que je l'ai pensé. Mais moi, je ne mets pas la barre très haut, hein, si vous voulez, par rapport à la crédibilité ici, parce que la série ne la cultive jamais vraiment non plus. Donc bon, voilà. Donc franchement, non, ça m'a pas plu. C'est une série B qui tâche, qui est mal dialoguée, qui est réalisée sans panache et qui est écrite à l'arrache. Donc voilà, de la mauvaise revenge série, comme on dit. Désolé. Hein.
La parole sera-t-elle à la défense avec Benoît Lagalle qui dodeline de la tête pendant qu'elle va démonter soigneusement la série?
Non, parce que je suis quand même plus proche de Nina que d'Ava, là, pour le coup. Non, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à en apparence au départ dans cette série qui pouvait justement être réussie.
En transparence.
Non, mais l'idée justement de ce fameux, de cette fameuse planque sous le palais de justice, ça, je trouvais que c'était par exemple une bonne idée et que c'est des séries qui ont pas de moyens, on le sait, ou moins de moyens que d'autres, et donc du coup, souvent, on peut les compenser par des idées géniales. Et là, il y a des idées, sauf qu'effectivement, derrière les idées, il y a comme une écriture qui est effectivement pas aboutie, qui tente des choses. Je pense par exemple à ce personnage de Tiffen, interprété par Tiffen Davio. C'est plutôt marrant de faire cette flic complètement,
oh là là,
complètement partie. Oui, mais on peut en faire quelque chose de vraiment bien. Mais le problème, c'est que derrière, ça ne marche pas effectivement. Et Eric, c'est des bonnes comédiennes, c'est pour ça que j'étais pas tout à fait d'accord.
Eric Hassens, personnage,
et Tiffen Davio sont en fait en roue libre. En fait, elles font ce qu'elles peuvent. Et c'est des bonnes comédiennes qui pourraient entraîner la série. Alors heureusement, le montage aide un peu. Le travail sur le montage donne un peu de rythme. Et moi, je me souviens de Trauma de 13e rue qu'on avait vu et qui était beaucoup plus maîtrisé. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il y avait plein d'idées possibles, mais que à la fin, effectivement, c'est quand même malheureusement raté. Et il y a en plus dans cette série tout un discours quand même sur
les violences faites aux femmes,
et que du coup, ça disparaît dans ce gloubi-boulga malheureux.
Oui, ça fait un peu prétexte, hélas, malheureusement. Puis malheureusement, les bonnes idées, on les a toutes soulignées, et je trouve qu'elles restent au stade d'intention, quoi,
voilà,
de proposition. Il fallait les développer, il fallait beaucoup plus jouer ce sous-sol, il fallait beaucoup plus
sur
jouer
la paranoïa, sur le suspense,
paranoïa et tout ça. Et elle se contente d'attacher, certes, un très joli ouvrier, mais enfin bon, ça fait quand même pas non plus une série. Nous sommes d'accord. J'ai tué mon mari, faut avouer, à moitié pardonné, série à moitié réussie, rapidement oubliée, c'est sur 13e rue.
C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Je n'en valais pas la peine, tu sais. Sans moi, tu as décidé, un beau jour, décidé que tu t'en allais. T'avais commencé à rebours. Était-ce vertige, des veines, qui sait? Un voyage, un seul aller au long cours, d'où l'on ne revient jamais. Moi, j'aurais tout essayé, mon amour. C'était vraiment pas la peine, je sais que c'était foutu d'avance, mon amour. Je n'ai ni remords, ni regrets. C'est moi qui t'ai suicidé, mon amour. Moi qui t'ai ouvert les veines, je sais. Maintenant, tu es avec les anges pour toujours et à jamais. Maintenant, tu es avec les anges pour toujours et à jamais.
Sorry, 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 s
Surrey Angel par Alex Baupin, extrait de la reprise de Love on the Beat, l'album mythique et hyper sexué, signé par Gainsbourg en 1984. Oh mon Dieu, est-ce que ça me rajeunit pas. Près de 40 ans plus tard, Alex Baupin, qui évite vraiment ici le piège du simple mimétisme, pose sa voix sensuelle sur des accords sublimés par les cordes et les claviers. Le soufre de l'album y est intact, mais rehaussé par ses contrastes musicaux et poétiques, et grâce à un jeu magistral de variations et de nuances. Un album qui sera au cœur d'un concert qu'Alex Baupin donnera ici même à la Maison de la Radio le dimanche 23 janvier à 20h. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais ce que je fais.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure du plateau télé déjà. Et oui, avant de se quitter, quelques recommandations, conseils. Ava, vous nous invitez à découvrir le 10 et le 17 décembre prochain sur France 2 les tout nouveaux épisodes inédits des Petits Meurtres d'Agatha Christie.
Et oui, deux nouvelles enquêtes inédites. Et je vous conseille d'enfiler vos pattes d'eff et de réviser votre Stone et Chardin parce que ça va swinguer dans les 70s et dans le commissariat d'Annie Greco, interprétée, comme vous le savez, par la formidable Emily Gawakan, une commissaire charismatique qui n'hésite pas à rosser les machos, et il faut dire qu'elle a du boulot avec l'inspecteur Beretta, qui ne comprend pas que l'époque et les mentalités sont en train de changer et qui est joué avec beaucoup d'espièglerie par Arthur Dupont. Donc vous verrez donc le 10 décembre Le Vallon, dernier épisode adapté d'un roman d'Agatha Christie, et le 17 décembre Mourir sur scène, qui est un scénario original et plein de fantaisie. Et moi, ce qui me plaît dans cette saison 3, donc qui se passe dans les années 70, c'est que les conventions de la screwball comédie, qui est un genre de comédie qui combine humour burlesque, dialogue vif et questions de mœurs, rencontre celle du polar et que ça fonctionne du tonnerre. Il y a des crimes, il y a des délits, il y a des tissus imprimés, il y a des mini-jupes, il y a des téléphones qui sonnent et il y a un canapé de psy, évidemment, parce que tout ce petit monde est sacrément barré. Hein. Voilà, c'est très divertissant, c'est délicieusement kitsch, ça donne envie de faire un long bout de chemin avec ces trois héros attachants, parce qu'il y a aussi Rose, la psy, donc oui. Voilà, je n'ai pas parlé, et qui a du pain sur la planche, donc voilà. Parfait. Petite friandise avant Noël, j'ai envie de dire.
La psy qui sort d'un épisode de Chapeau Melon et Bottes de Cuir,
voilà,
on est d'accord.
Ça.
Et le ballon qui est très en hommage à Cosmos 1999 voilà. Et qui est interprété entre autres par l'excellente Aurélia Petit, ouais. Voilà, qui est une comédienne que j'aime beaucoup. Changement de registre, donc Petit Meurtre d'Agatha Christie, 10 et 17 décembre sur France 2. Merci Ava. Nina, changement de registre. Le ballon rond, je ne vous aurais pas imaginé dans cet exercice-là, mais allez-y, vous défendez Maradona, le rêve béni, qui est diffusé sur Prime.
Oui, effectivement, c'est une série qui arrive presque un an, jour pour jour, après la mort de Diego Maradona. C'était le 25 novembre 2020, et qui nous plonge dans la vie de ce génie du football. Et pourtant, vous l'avez dit, je ne suis pas une fan de foot, mais alors absolument pas, raison pour laquelle je pense j'ai été cueillie par cette série de laquelle je n'attendais pas grand-chose. Une série de 10 épisodes d'une heure qui commence Villa Fiorito, dans la banlieue de Buenos Aires, ça réchauffe aussi, là où tout a commencé pour le Pibe del Oro, le gamin en or. C'est une vraie saga Maradona, sublimée par 4 très beaux comédiens qui incarnent chacun le joueur à différentes périodes de sa vie, et je donne une mention spéciale aux génériques de fin qui sont extrêmement savoureux parce que truffés d'images d'archives du joueur, qui fonctionne comme un vrai effet miroir pour le coup avec l'épisode qu'ils viennent conclure. C'est très bien fait et on se dit qu'avec Maradona, là aussi la réalité dépassera toujours la fiction.
Mais je n'y crois pas, vous m'avez donné envie de regarder une série sur le football.
Il y en a plein.
Je ne sais pas si je vais vous dire merci Nina, mais en tout cas bravo. Maradona, le rêve béni sur Prime. Non, quelques minutes, vous n'êtes pas sans savoir que c'est bientôt Noël.
Ah bon?
Ouais, c'est un scoop, mais voilà, je me permets effectivement de vous le dire. Et du coup, qu'est-ce qu'on met sous le sapin pour les gens qui aiment les séries, le petit, le grand écran? Eh bien, je me suis permis de faire une petite sélection et on va commencer par quelle est cette série sans énigmes visuelles pour sériephiles par Paul Rogers aux éditions Cambourakis. Voilà, je ne me suis pas trompé. Six images pour faire deviner le titre d'une série célèbre. Petit test, une bouteille de champagne, une Lotus, une Rolls, une femme en guêpière cuir avec un serpent.
Non. Chapeau melon et bottes de cuir.
The White Lotus.
Non, c'était chapeau melon et bottes de cuir. Enfin, voilà. Écoutez, le club de l'enfer. L'apparition la plus sexy de l'histoire de la télévision.
Je suis tellement nul en rébus que j'ai hésité.
On va vous redonner une chance. Encore une Lotus, une lettre de démission, une veste noire avec un numéro à son col. Oh mon Dieu, le prisonnier.
Oui, oui. Oh là là, bah oui,
ah bah oui, bien sûr, facile. Voilà.
Mais je suis nul en rébus.
Et quand je pense que j'ai gardé les plus simples. Quelle est cette série donc aux éditions Cambourakis? Autre petit conseil, Bioman, la Bible officielle parue chez Courrepape. Alors là, vous connaissez, hein. À l'occasion des 35 ans de la série, un ouvrage richement illustré de rouge, bleu, jaune, vert et rose, bien sûr, pétant, célèbre une série culte s'il en est. Rien ne manque. La fiche des personnages, descriptif des pouvoirs, les super méchants, les intrigues, les véhicules, les gadgets. Bref, un cadeau idéal, pour tous les fans. Benoît, c'est pour vous, ça.
Je veux bien, je l'ai feuilleté sur votre bureau. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, il y a plein de saisons très différentes, en fait. Alors que moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule saison.
Non, il y a eu des reboots, bien sûr.
Ouais, c'est Bioman. Fou, en fait.
Allez, petit cadeau. Est-ce qu'on a encore oui, on a encore un tout petit peu de temps. Alors ça, c'est... Voilà, on quitte un tout petit peu la série et on va du côté du cinéma, mais c'est absolument magnifique. C'est L'art de l'affiche de Laurent Durieux aux éditions Les Arts Dessinés, un sublime ouvrage consacré à cet artiste belge de 51 ans qui a travaillé auprès de Spielberg, Coppola ou Paul Thomas Anderson, qui a créé des affiches. Et je peux vous dire que dans sa création d'affiches, qui sont vraiment des collector, il arrive à cristalliser, à transcender vraiment toute l'âme des films qu'il remet en image. Alors, il y a Jaws, effectivement, il y a Les Dents de la Mer, il y a Shining, et c'est absolument magnifique. On pense à parfois un peu à Hooper, hein, Hooper revisité comme
la
ça. C'est magnifique à Métropolis. Alors, on est à la radio, je sais, je le montre, mais c'est quand même absolument sublime. Et c'est donc aux éditions Les Arts Dessinés. Cadeau, ma chère Ava. Voilà, une heure en série, c'est fini. Je sais, je vous ai gâté, mais vous aussi, vous m'avez gâté grâce à votre présence et votre pertinence. Donc, mille merci à vous, Nina, Ava et Benoît, d'y avoir participé. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir écouté une heure en série. Cette semaine, nous vous avons recommandé trois petits points. Invasion sur Apple TV, American Rust sur Canal+, et J'ai tué mon mari sur 13e rue. La semaine prochaine, retrouvez-nous, nous évoquerons Clongar sur Polar+, Dopsic sur Disney+, et Hors de lui sur France TV, tout simplement. Demain soir, ne manquez pas Le Masque et la Plume, consacré à l'actualité du cinéma. Il sera beaucoup question de mère dans cette émission, mère M-E-R-E, avec les films d'Almodovar et d'Audrey Diwan. Une heure en série, une émission que vous pouvez bien sûr écouter en podcast, en particulier la chronique de Benoît à l'effet miroir. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer vos courriels, et merci par avance, parce que c'est toujours très agréable, les courriels, les conseils, les récriminations. Le compte Instagram, une heure en série officielle, une heure en série est bien réalisée, évidemment, de main de maîtresse par Marie-Annick Rimbaud, une programmation musicale assurée par Valentine Chédebois, préparée avec Amel Caldi, et à la technique ce soir, Laurent Baudouin.